en retour. Toi, de ton côté, qu'est-ce qu'il y a à donner comme éclaircissement là-dessus? Puis qu'est-ce que Kent Hughes a dit cette semaine?
Ouais, ben en fait, c'est une entrevue qu'a accordée Kent Hughes au réseau Sportsnet, là, si je me trompe pas, c'est hier. Et en ce moment, il y a beaucoup de rumeurs,
Oui.
justement, que le contrat à Price serait échangé. Vraiment une transaction fiscale, on s'entend. Price ne jouera plus jamais, son jeu droit est complètement fini. Mais là, Kent Hughes a tenu à un peu calmer le jeu, si on peut dire. Évidemment, c'est un fin négociateur. Donc, il est sorti dans les médias pour dire oh, on n'a pas nécessairement besoin d'échanger le contrat à Price. En ce moment, tout est correct. On peut le garder.
C'est sûr
L'enjeu,
que
c'est
ça n'a pas
évidemment.
l'air d'une vente de feu non plus, là, puis un mouvement de
Exactement.
panique.
C'est que s'il se pose en disant je dois échanger le contrat, bien évidemment, il y a moins de poids dans la négociation après avec les autres équipes. Donc, de dire qu'on peut garder le contrat, il n'y a pas de problème, évidemment. C'est pour se donner plus de jeu là, au niveau des négociations avec les autres équipes, justement.
Les
Donc,
rumeurs présentement, y a-tu des équipes en particulier qui seraient intéressées? Puis qu'est-ce qu'on veut aller chercher avec ça? Mettons qu'on réussit à faire un échange chez le Canadien.
ben évidemment, on n'ira pas chercher grand-chose,
Non,
là.
hein?
Je vous mentirai pas parce que, en fait, les autres équipes vont faire un cadeau aux Canadiens. Parce que, veut pas, même si on est capable de l'avoir sur la masse salariale, ça cause des problèmes. Puis là, c'est vraiment technique. Là, on parle de chiffres au niveau des hauts bureaux de la Ligue nationale. Mais il y a des équipes quand même qui, eux, l'enjeu, c'est qu'ils n'ont pas assez de contrats, donnent pas assez d'argent. Puis il y a quand même un plancher dans la Ligue nationale. Donc, toutes les équipes doivent dépenser un minimum d'argent.
Ouais.
Donc, il y a certains clubs qui ne participeront pas aux séries, donc n'ont pas nécessairement de problème en ce moment avec le plancher salarial. Par contre, rendu à la date limite, s'ils veulent échanger des joueurs, là, pourraient tomber en dessous du plancher salarial. Donc, certaines équipes pourraient être intéressées justement à aller chercher le contrat pour que dans quelques mois, ne se retrouvent pas avec des problèmes justement au niveau de la masse salariale. Donc, c'est vraiment là que se joue le jeu du contrat de Price et pourquoi il y a des équipes comme les Sharks de San Jose, par exemple, qui sont à la limite du plancher, qui pourraient être intéressées parce qu'ils ne feront pas les séries, ne gagneront pas la Coupe Stanley. Donc, s'ils ont des joueurs qui ont une certaine valeur rendue à la date limite, évidemment, vont les échanger. Puis d'avoir un contrat à Price, ben, pour eux, c'est le meilleur des mondes parce que Price, sur la masse, coûte environ 10 millions de dollars. Là, on vient d'y
Ouch.
payer un boni de 5,5 millions. Donc, l'argent à payer pour l'équipe est moindre. Donc, c'est vraiment gagnant pour un propriétaire qui va chercher 10 millions sur sa masse puis qui n'a pas besoin de dépenser 10 millions réellement.
Alex, je faisais référence à la série La Reconstruction sur Crave parce que dans les nouveaux épisodes, on se retrouve 365 jours en arrière au tournoi de golf du Canadien. Puis ça nous rappelle qu'il y en avait des points d'interrogation l'an passé autour du Canadien. Puis ça a été long avant qu'on commence à vivre la saison qu'on a vécue. Là, il y a moins de points d'interrogation, mais il en reste encore quelques-uns, hein.
Il en reste un majeur et c'est évidemment la position de deuxième centre. Ça a été adressé là, par Kent Hughes et Jeff Gorton lors de leur dernier point de presse. Ils savent qu'il manque un deuxième centre. Tout le monde à Montréal, tout le monde au Québec, tout le monde à la Ligue nationale le sait. On a besoin d'un deuxième centre. Évidemment, ils n'ont pas réussi à en trouver un cet été. Ils ont mentionné que c'est un travail en continu, la reconstruction du Canadien. On n'ira pas chercher tous les bons morceaux en un été. C'est un peu ça. Ils préparaient un peu le terrain pour arriver au début de la saison puis dire, ben, on n'en a pas trouvé un deuxième centre. Ça ne court pas les rues, évidemment.
On a-tu abandonné sur Kirby Dack?
Ben, c'est ça la question en ce moment. C'est que
Pauvre vie.
techniquement, ce poste-là était réservé à Kirby Dack. On connaît les enjeux de blessure. Puis là, pendant l'été, on a eu des nouvelles plus ou moins encourageante, sa réhabilitation ne va pas comme il faut, il serait peut-être pas prêt pour le début du camp d'entraînement. Donc, si Kirby Dack n'est pas là, ben, ça laisse vraiment un trou béant.
Oui.
Là, évidemment, il y a le jeune Zach Bolduc, qui est plus un ailier. À ce qui paraît, on lui a demandé de pratiquer ses mises en jeu, potentiellement pour peut-être dépanner au centre. On connaît Alex Newhook, qui est un centre-ish, réellement. Personnellement, moi, je le vois plus comme un ailier. Est-ce qu'il peut dépanner au centre? Oui. Est-ce qu'il peut le faire pendant 82 matchs? À mon humble avis, non. Donc, ça reste un point d'interrogation. Si j'avais à mettre un petit 2 $, évidemment, je mettrais Kirby Dack, mais c'est sa santé. C'est vraiment ça le gros point d'interrogation avec lui.
C'est vrai que Newhook, cet été, a été aperçu dans des centres d'entraînement à travailler ses mises au jeu avec un certain Patrice Bergeron qui est comme considéré comme l'expert en la matière.
Ah, effectivement, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Là, je parlais de Zach Bolduc, lui aussi, à ce qui paraît, l'état-major du Canadien lui a demandé de pratiquer ses mises en jeu. Alex Newhook, c'est la même chose. Puis évidemment, d'avoir un professeur comme Patrice Bergeron, qui a été la référence niveau mise en jeu, même en défense. Je pense qu'il y a des trophées ESL qui en a gagné, je ne sais pas combien, beaucoup, beaucoup trop. Ça devrait être renommé même le trophée Patrice Bergeron, si vous voulez mon humble avis, parce que Frank Selke, personne ne sait c'est qui. Donc, non, évidemment, ça ne peut pas nuire à Alex Newhook, mais là, il va falloir voir les résultats lors du premier match, évidemment.
Il y a des émissions de TV qui parlent de nos étranges dépendances où on voit du monde bizarre manger des mouchoirs,
des doublures de divan,
triper sur les orteils. Un jour, il faudra faire un reportage sur les amateurs de hockey québécois et leur fétiche des goleurs. On aime-tu ça, parler des goleurs? On tripe-tu ces goleurs? La fin de contrat de Carey Price, le trip à 3 il y a 2 ans. Puis là, ben, ça fait partie des points d'interrogation présentement. Sam Montembeau, ça fait, mais son deuxième goleur cette année, ça va être qui?
Exactement, tu l'as bien dit, Denis. On le sait que Montembeau, c'est le numéro 1, c'est notre gardien. Là, pour le poste de numéro 2, l'année dernière, on a vu le jeune Yacoub Dobech qui est arrivé de Laval. Que ça a bien commencé vers la fin de la saison, c'était plus difficile.
Ouais. Il a impressionné, puis moins.
Exactement, c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc, évidemment, Kent Hughes ne pouvait pas rester les bras croisés. Durant l'été, il est allé chercher un gardien vétéran, Kaapo Kakkonen. C'est un gars qui a roulé sa bosse dans la Ligue nationale. À mon humble avis, selon moi, il va être de la formation partante. Selon moi, ça va être lui, le gardien pour épauler Montembeau. C'est quelqu'un, un gardien d'expérience. Il sait comment ça fonctionne à la Ligue nationale. Il a déjà été un gardien numéro 2 parce que c'est difficile pour un gardien numéro 2. Il doit pratiquer continuellement, joue peut-être une partie toutes les 2 semaines. Donc, il faut être solide mentalement. Il faut être capable de garder aussi sa forme physique sans jouer des matchs. Donc, c'est pas un poste qui est évident. Puis pour des jeunes gardiens, souvent, c'est ça qui est un petit peu plus difficile. Ils sont habitués de jouer, sont habitués d'être le meilleur gardien de leur équipe, là, arrivent dans les niveaux professionnels, ne sont pas nécessairement les meilleurs, ne jouent pas tout le temps. Donc, selon moi, ça pourrait être bénéfique pour Yacoub Dobech de commencer l'année à Laval, lui laisser le temps. On amène Kaapo Kakkonen à Montréal, puis selon moi, lui, il peut combler le poste là, de manière périodique.
Un des gros points d'interrogation dans l'entourage du Canadien, puis j'entends tout et son contraire. Il y en a qui disent qu'il va battre tous les records puis gagner la Coupe Stanley à lui tout seul. Puis il y en a d'autres qui nous disent qu'à part Fortnite, il fera pas grand-chose cette année. Fait que entre les deux, la vérité va être là, j'imagine, pour Patrick Laine, un joueur polarisant présentement dans les débats.
Polarisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait beaucoup de rumeurs qui ne seraient pas de la formation partante du Canadien. Plusieurs parlaient qu'on devrait s'en débarrasser, l'échanger un peu comme Columbus a fait avec nous, c'est-à-dire l'échanger pour rien. On a donné Jordan Harris. Pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de lui. Donc, c'est sûr que Patrick Laine, c'est un talent brut. Il marque des buts. Il a un tir foudroyant, probablement un des 5 meilleurs tirs dans la Ligue nationale. Mais ceux qui le voient jouer, ceux qui connaissent le hockey, savent que, honnêtement, c'est un peu un flambeau, hein? Pas le gars qui va dans le coin, c'est pas vraiment celui qui va donner des mises en échec, même s'il mesure 6 pieds 5.
Quand il est sur son point G puis qu'il reçoit rondelle, tout va bien, mais tout le reste autour, c'est pas mal plus difficile, là.
Exactement, puis le gros point d'interrogation, c'est est-ce qu'il va faire partie de la première vague d'avantages numériques? Parce que on a un certain Ivan Demidov, on en a un peu parlé là, à peine dans les derniers mois qui est arrivé. Évidemment, lui aurait sa place sur la première vague d'avantages numériques. On connaît les Suzuki, Lane Hudson, Caulfield, Slavkovski. Donc, Laine se ramasse un peu à être celui qui est écarté. Mais là, c'est son pain et son beurre, Patrick Laine, de marquer des buts sur l'avantage numérique. Donc, s'il ne peut pas combler ce poste-là, c'est un peu se demander qu'est-ce qu'il va faire avec les Canadiens. Il a passé tout l'été à Montréal, beaucoup d'échos positifs, s'est présenté dans toutes sortes d'événements avec sa blonde, au mariage de Montembeau, il était là aussi. Donc, ça va avoir quand même une bonne relation avec les membres de son équipe, ce qui est important. Mais là, est-ce qu'il va marquer 20 buts, 30 buts? C'est une bonne question. Ça va dépendre de son apport sur l'avantage numérique.
C'est weird de faire des parallèles avec le baseball, mais c'est quand même ça un peu. Si Laine joue pas sur le power play, c'est comme un frappeur désigné qui va pas au bâton. Je veux dire, ça sert plus à grand-chose au total tout, là.
Exactement. C'est une excellente comparaison parce que honnêtement, c'est pas un fabricant de jeu.
Non.
C'est pas le genre de gars qui va devant le filet. C'est pas le genre de gars qui fait des replis défensifs. Surtout pas. Il est là pour marquer des buts. Et là, on revient à la question de la position de centre. À part Suzuki, on est sensiblement faible au centre, donc sur du temps de jeu à 5 contre 5, qui va être capable de lui donner les bonnes passes? Évidemment, on passe à un demi-dove, mais là, il faut qu'il joue sur la deuxième ligne. Est-ce qu'il mérite de jouer sur la deuxième ligne quand il y a des gars comme Brandon Gallagher, Josh Anderson, Newhook, qui travaillent d'arrache-pied à chaque présence? À un moment donné, ça devient difficile de justifier qu'un Patrick Laine soit sur une deuxième ligne quand il y a d'autres gars qui donnent plus de cœur à l'ouvrage au final.
Une nouvelle convention collective qui a été signée cet été, ça va amener des changements dès cette année?
Pas cette année. En fait, ça rentre.
L'autre saison, oui.
Exactement. Ça rentre en vigueur pour la saison 2026-2027. Et là, il y a plusieurs changements. Le plus gros, c'est qu'on passe à une saison de 84 matchs. Donc, il y aura plus 82 matchs. On en a
rajouté
deux.
C'est ça qu'on dit tout le temps. Hein? Il manque de matchs en saison régulière, particulièrement en septembre-octobre. Hein? Oui.
Ben, en fait, l'idée, c'est plus d'enlever des matchs préparatoires parce que, honnêtement, il n'y a aucun joueur de la Ligue nationale qui aime les matchs préparatoires. C'est vraiment pour les jeunes joueurs, question de se prouver. Mais pour les vétérans, pour eux, c'est un peu du temps perdu. Puis on a vu qu'est-ce qui est arrivé au dernier camp d'entraînement du Canadien. Lainé s'est blessé au genou. Plusieurs joueurs qui étaient en mauvaise forme physique, des joueurs blessés. Donc, idéalement, c'est de réduire la pré-saison au plus court. Là, on parle de 4 matchs par équipe. Les joueurs qui ont plus de 100 matchs d'expérience vont jouer seulement 2 matchs. Et là, la saison serait devancée. Donc, on commencerait début septembre pour finir plus tôt parce que l'appétit pour le hockey rendu à la fin du mois de juin est un petit peu moins là. Donc, je pense que c'est quand même une bonne idée de devancer la saison, devancer la fin de la saison. Donc, on parle d'une Coupe Stanley gagnée probablement à la mi-juin. Sinon, pour la date des agents libres, si on garderait ça le 1er juillet, c'est une date qui convient à tout le monde. Donc, si on garderait ça, mais c'est vraiment de devancer le début de la saison.
Hey, moins de matchs pré-saison, puis quelques matchs de saison régulière de plus. On va peut-être finir par avoir des vrais games au Centre Vidéotron à Québec. Alex Laramie, merci beaucoup.
Ben, ça fait plaisir.
On se reparle bientôt. Alex Laramie, qui est journaliste, chroniqueur sportif pour le 99.5. Nos amis de Montréal, il y a un match de tennis qui est en cours présentement.
C'est
Véro.
Au US Open. C'est Félix Auger-Aliassime qui affronte Alex de Menor. Puis Alex de Menor est considéré 8e raquette mondiale. Félix est la 25e. Et actuellement, c'est 2-7 de remporter pour Félix Auger-Aliassime, puis c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le tennis parce que mes connaissances s'arrêtent là.
Mais bravo quand même, c'est déjà plus que ce que j'aurais dit.
Il y avait des noms puis des résultats. Moi, je suis quand même fortement impressionné.
Bravo.
Oh oui, absolument. Hey, parlant d'avoir